Bonsoir à tous. Bon, on attendait un petit peu les gens à venir, mais on va commencer. Ben, en tout cas, je vous remercie d'être là ce soir pour participer à cette table ronde. Effectivement, cette soirée s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale des soins palliatifs. Jalmalve, depuis sa création en 83, s'est toujours mobilisée pour le développement des soins palliatifs et l'accompagnement. Et la loi Leonetti qui a été votée en 2005 et puis la révision de la loi Leonetti-Claes en 2016 a favorisé vraiment la prise en charge des personnes en fin de vie. Et c'est vraiment... Il y a eu une amélioration certaine. Mais que dire des soins palliatifs auprès des personnes âgées? Comment les équipes médicales et soignantes répondent aux besoins des personnes âgées dépendantes en fin de vie? C'est ce que nous allons voir ce soir avec les personnes qui sont à cette table, qui ont accepté d'intervenir et de témoigner de leur expérience. Donc, bon, je présente Maud, c'est ça ? Ah oui, Maud, infirmière, donc à l'EHPAD de Mignalou. Madame Guiberto, qui est le cadre de santé responsable des myosotis à Mignalou. Pardon ? Ah oui, c'est vrai que vous êtes directrice, je dis cadre de santé directrice, oui. Excusez-moi, Madame Guiberto. Et puis, bien sûr, vous connaissez peut-être Madame Michon-Dubalet, qui est médecin gériatre au CHU de Poitiers. Hein, elle présentera plus particulièrement son travail au cours de cette soirée. Et puis, Marie-Natacha Coquereau, hein, qui... Voilà, elle m'a dit son nom ce soir et puis j'ai pas retenu. Donc elle est aide-soignante dans le service où travaille Madame Michon-Dubalet. Donc elles vont nous présenter ce qu'elles vivent au quotidien, leur expérience, leur expertise aussi en soins palliatifs auprès des personnes âgées. Et puis bien sûr après, et c'est le but de cette soirée, il y aura un échange sur vos questions, vos réflexions, vos remarques, mais aussi sur l'accompagnement des personnes âgées et leurs familles. Voilà.
Je vais poursuivre. Merci, Madame Simon. Alors, je vais commencer par brosser un petit portrait hein, de sociologique du contexte, si vous voulez bien. En plusieurs décennies, le déroulement de la fin de vie des personnes âgées a bien changé dans notre société. Dans le passé, les personnes âgées finissaient leurs jours le plus souvent entourées de leurs proches, dans le cocon familial. La vie moderne, avec l'éclatement géographique des familles et le travail des femmes et des hommes dans les couples, ont contribué à isoler les personnes vieillissantes. Les familles confrontées à tout un tas d'obligations se tournent désormais vers les structures médico-sociales pour prendre soin de leurs proches. Les personnes âgées y trouvent la sécurité et une prise en charge adaptée à leurs besoins, alors qu'elles sont de plus en plus dépendantes avec l'allongement de la vie. Nos aînés polypathologiques et polyhandicapés sont nombreux désormais à finir leurs jours en EHPAD ou à l'hôpital. Entre 65 et 70 ans, 70% des décès ont lieu dans une structure hospitalière. Ensuite, passé 70 ans, la plupart des décès en EHPAD augmentent, alors que celles en établissement de santé diminuent. Concernant les personnes âgées souffrant de démence, leur fin de vie se déroule majoritairement à l'hôpital. La mort revêt toujours un caractère insupportable, quel que soit l'âge, mais la vraie préoccupation aujourd'hui concerne les conditions de la fin de vie. Les soins palliatifs ont à cet égard contribué à rendre la mort plus acceptable, en soulageant la douleur, en prenant en considération la souffrance psychologique, l'environnement et le désir de la personne en fin de vie. Cette nouvelle forme de prise en charge a aussi contribué à faire émerger l'idée d'une mort idéale. Comme on peut parler du bien vieillir, on parle aujourd'hui du bien mourir ou d'une belle mort. Désormais, notre société judéo-chrétienne contemporaine réclame des garanties et attend beaucoup des professionnels de la santé. Ces derniers ont pris la mesure de ces changements et des besoins des personnes mourantes. Il s'agit pour eux de prendre soin du mourant, mais aussi d'accompagner les familles dans le parcours de la fin de vie qui peut être parfois long et difficile. La personne âgée peut réclamer la mort tout en la redoutant lorsqu'elle s'approche. Les familles désemparées manifestent leur impuissance et attendent des réponses que les professionnels ne pourront satisfaire systématiquement. Le soignant devient désormais central dans le parcours de la fin de vie de la personne âgée. Il est très attentif, compatissant et extrêmement vigilant à offrir un cadre propice à l'apaisement et à la sérénité. Il communique beaucoup avec les familles et anticipe souvent les situations susceptibles de les mettre en difficulté. Cette démarche rend alors l'approche de la mort plus supportable pour les familles et pour les professionnels. Pour autant, il existe quelquefois des décalages entre une fin de vie difficile et la mort idéale fantasmée. Parfois, le travail des professionnels se complique lorsqu'ils ne parviennent pas à satisfaire les attentes des familles. Maud, qui est à côté, sur ma droite, infirmière de l'EHPAD de Mignaloux, illustrera mes propos par un exemple concret. Les enjeux humains deviennent alors des enjeux sociétaux. Le législateur s'empare donc du problème en faisant évoluer la loi. Et à ce titre, la loi Claeys-Leonetti tente de répondre aux attentes de la population dans ce domaine. Le docteur Mijon Dubalet pourra évoquer le sujet dans son intervention et Marie et Natacha, aide-soignante du service de gériatrie, poursuivra avec une situation concrète rencontrée dans le service. Cette table ronde permettra, j'espère, de faire un retour d'expérience réaliste hein, des accompagnements de fin de vie des personnes âgées en structure de soins. Elle aura aussi pour objectif d'échanger avec vous sur les problématiques que rencontrent les familles et d'apporter certains éclairages. Merci.
Bonsoir. Donc moi, je suis infirmière à l'EHPAD Le Clos des Myosotis. Je vais vous présenter le cas d'une résidente qui est décédée dans mon EHPAD. Je l'appellerai Madame Dupont pour préserver le secret professionnel. Donc Madame Dupont était veuve, elle avait 3 enfants. C'est une dame qui avait des troubles de la compréhension, des troubles de la vue et des troubles du langage. Par conséquent, la communication verbale avec elle était quasi inexistante. Elle avait besoin d'un accompagnement dans la totalité des actes du quotidien. Elle est restée 6 ans et demi à l'EHPAD. Auparavant, elle vivait chez sa fille, avec qui elle entretenait une relation très fusionnelle. Ensuite, elle est allée au centre de jour, tout en restant chez sa fille. Puis, suite à des troubles du comportement et à une perte d'autonomie, elle est rentrée au Clos des Myosotis. Dès son entrée à l'EHPAD, sa fille a pris la décision de venir tous les matins et tous les soirs accompagner sa maman. Puis elle a cessé de venir le soir. Elle était très présente au sein de l'EHPAD. Petit à petit, Madame Dupont a présenté une altération d'état général avec des troubles de l'appétit, des fausses routes, ensuite des problèmes cutanés à type d'escarre et des douleurs. Au début, on a mis en place une perfusion sous-cutanée pour l'hydrater, une alimentation enrichie et des antalgiques. Mais ne voyant pas d'amélioration, on a évoqué la question des soins palliatifs, à savoir l'arrêt de tout traitement curatif en équipe. On a également évoqué le sujet avec sa fille et son médecin traitant, mais séparément, car on n'a jamais réussi à organiser une rencontre entre la fille, le médecin et nous, malgré plusieurs tentatives. Sa fille était dans le déni de la fin de vie de sa maman. Elle souhaitait maintenir l'alimentation à tout prix, malgré les risques de fausses routes et la prise des traitements également. Elle a beaucoup eu mal à comprendre notre proposition d'interrompre les perfusions, devenues inutiles et douloureuses pour sa maman. Elle souhaitait que l'on fasse les pansements tous les jours, alors que c'était douloureux et qu'on avait du matériel qui agissait sur plusieurs jours. Elle souhaitait également habiller et lever sa maman tous les jours, alors qu'elle n'en avait plus la force. Ce déni était renforcé par leur relation très fusionnelle et très particulière, puisque la maman était devenue la fille et la fille la maman. Nous avons longuement accompagné la fille de Madame Dupont dans le processus de fin de vie. Nous avons passé beaucoup de temps à lui expliquer l'intérêt de chaque soin, de chaque arrêt de soin. Nous avons essayé de lui laisser du temps pour accepter l'état de santé de sa maman. Elle nous disait « oui, j'ai compris ». Et puis finalement, elle tenait un discours contraire auprès du médecin. La fille et le médecin entretenaient une relation amicale. Par conséquent, la fille elle appelait directement le médecin et nous recevions des ordonnances par fax sans avoir pu échanger avec le médecin des traitements mis en place. Et quand on l'appelait pour avoir des explications, il nous répondait « c'est pour faire plaisir à sa fille ». En plus, sa fille était ambivalente car elle voulait que sa mère soit soulagée, mais elle ne souhaitait pas la sédation qui est induite par les effets secondaires des antalgiques. Elle souhaitait pouvoir continuer à communiquer avec sa maman. Ça nous a amené, nous l'équipe, à être en inadéquation avec nos valeurs professionnelles, à effectuer des soins dont on ne comprenait pas l'intérêt pour Madame Dupont. Dans une fin de vie, on doit prendre en compte la famille. On sait que l'entourage est très important, mais jusqu'à quel point ? Car nous, c'est vrai qu'on prend soin avant tout de la résidente. Et dans le cas de Madame Dupont, on avait plus l'impression d'accompagner la fille que la maman. Voilà.
Alors, c'est à mon tour maintenant. Donc, moi, je travaille donc dans le service de gériatrie. Je me suis occupée longtemps d'un court séjour de médecine gériatrique. Et actuellement, j'ai en charge l'UCC, donc l'unité cognitivo-comportementale, également une partie de l'UHR, l'unité d'hébergement renforcé. Donc, il concerne des patients qui présentent une maladie d'Alzheimer ou des maladies apparentées avec des gros troubles du comportement. Et Marie-Natacha, donc, qui m'accompagne, vous présentera un cas clinique d'un monsieur qui était à l'UHR. Alors, je vais prendre les lunettes, ce sera mieux parce que j'ai peur de dire des bêtises. Alors, être soignant en EHPAD ou dans un service de gériatrie, c'est être confronté à la maladie chronique invalidante, aux polypathologies et à la fin de vie. C'est aussi être en mesure de répondre favorablement à des demandes des patients et des familles, parfois très difficiles, soulevant au quotidien des problèmes éthiques. Comment faire prendre des médicaments à quelqu'un qui les refuse ? Comment faire manger un patient qui s'oppose à tout ? Comment prendre soin de quelqu'un dans le refus ? Les dilemmes sont complexes, d'autant plus que la personne souffre d'altération des fonctions cognitives et que sa famille a des demandes ambivalentes. Lorsqu'arrive la fin de vie de ces personnes, beaucoup de questions se posent alors à l'équipe soignante qui se trouve à l'interface entre la bienfaisance et les souhaits du patient, entre l'incompréhension des proches et leurs exigences. On l'a vu avec notre cas clinique, là, c'était complètement dedans. Avec l'éternelle interrogation éthique, comment faire pour bien faire en restant toujours bienveillant ? Madame Assimon vous a parlé de cette réflexion sur les soins palliatifs qui a commencé en 1940. C'est un long cheminement qui aboutit en France à la loi Leonetti en 2005, qui a été retravaillée et qui a permis donner la nouvelle loi Claeys-Leonetti en février 2016. Celle-ci nous ouvre des portes et nous permet une prise en soins plus sereine. Encore, faut-il soi-même la comprendre et l'expliciter aux patients et ses proches avec des mots simples. Cette loi est écrite pour ceux qui vont mourir et non ceux qui veulent mourir. L'obstination déraisonnable, c'est ce qu'on appelle, nous, vulgairement, l'acharnement thérapeutique. Cette obstination déraisonnable, elle est interdite dans la loi. On ne doit pas traiter quelqu'un ou faire des actes complémentaires comme des radiologies ou des actes de chirurgie pour quelqu'un qui est en fin de vie. L'alimentation et l'hydratation artificielle constituent des traitements. Là, je vous détaille un petit peu la loi. L'arrêt des traitements doit se faire selon la volonté du patient et ou par procédure collégiale, c'est-à-dire avec une réflexion d'équipe. Les directives anticipées, on pourra en reparler après, hein, les directives anticipées s'imposent aux médecins qui prennent en charge le patient, notamment sur les investigations, les traitements, arrêtés ou non, les interventions. Donc ces directives anticipées s'imposent, sauf s'il y a une urgence vitale. Bon, si le médecin ne sait pas et qu'il doit prendre en charge quelqu'un en urgence, évidemment, il ne va pas regarder les directives anticipées. Et elles ne s'imposent pas non plus si on a des cas complètement inappropriés, ça peut arriver. Ces directives anticipées n'ont pas de durée de validité, contrairement à la loi précédente. On donne une place prépondérante à la personne de confiance avec une hiérarchisation des avis, c'est-à-dire c'est d'abord les directives anticipées de la personne, puis la personne de confiance qui est sollicitée, puis la famille, puis les proches. Le médecin doit respecter la volonté du patient qui, s'il met sa vie en danger, doit réitérer sa décision, c'est-à-dire je veux qu'on arrête tout et je le redis pour confirmer les choses. Si le médecin ne se sent pas capable d'assumer la fin de vie de son patient, et parfois c'est compliqué, on pourra en reparler, il y a possibilité de faire appel à un autre membre du corps médical. Les décisions d'arrêt des traitements, d'arrêt des soins, doivent être inscrites au dossier médical. Le médecin met en place les mesures appropriées avec des traitements analgésiques et sédatifs, afin de soulager toute souffrance réfractaire avec la notion de double effet, c'est-à-dire de pouvoir abréger la vie. Le malade est informé avec sa famille. Il y a maintenant dans cette nouvelle loi un droit à la sédation profonde jusqu'au décès, en cas d'affection grave et incurable et de pronostic vital engagé à court terme, soit à la demande du patient, soit au titre du refus de l'obstination déraisonnable, avec une procédure collégiale. Cela peut se faire au domicile, en hospitalisation ou en EHPAD, et tout doit être inscrit au dossier médical. Voilà quelques mots sur la nouvelle loi. Cette nouvelle loi n'est pas une euthanasie, car l'intentionnalité est différente, la pharmacopée utilisée est différente et la temporalité est différente. Il n'y a pas de contrôle absolu du moment du décès. Voilà pour cette nouvelle loi, on pourra en reparler. Je vous dis maintenant, avant que Marie-Natacha prenne la suite, quelques mots sur le refus de soins, parce qu'on est confronté à ça au quotidien quand on est soignant dans ces services. Le refus de soins oblige à repenser la relation soignante. Est-ce que l'on est maltraitant si on est intrusif? Est-ce qu'un soignant qui est intrusif, qui oblige la personne à se laver par exemple, est-ce qu'il est maltraitant? Quelle est la valeur du refus? Pourquoi le patient refuse? Est-ce qu'il a honte? Est-ce qu'il veut garder une part d'autonomie? Je pense qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas d'héroïsme du soin. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'arrivera pas à faire le soin que ça va être un problème. Et le doute pour un soignant reste pour moi une vertu. Le refus d'un patient d'avoir des soins est un message qu'il nous envoie sur le soin perçu, sur le soin réel, mais aussi à celui qui propose ou va faire le soin. Un soin, enfin, je pense que Marie-Natacha va le détailler très très bien tout à l'heure, c'est vraiment une communication. Le soignant, souvent, il a un double conflit de conscience. Il est responsable envers son patient qui refuse d'être soigné. Donc, il est responsable du soin technique, mais aussi, il est responsable du fait qu'on ne peut pas imposer le soin à son patient. Et là, ça interroge complètement sa compétence émotionnelle. Et évidemment, tout est dans le compromis. Ce que va nous détailler Marie-Natacha.
Bonsoir à tous. Marie-Natacha, ça fait 8 ans que je suis aide-soignante dans l'unité d'hébergement renforcé. Voilà, j'ai un patient qu'on a accompagné et sa famille, qu'on appellera Monsieur H. Monsieur H, 77 ans, est retraité de l'enseignement, est atteint de la maladie d'Alzheimer. Du fait de l'évolution rapide de sa maladie et de l'épuisement de ses proches, Monsieur H a été hospitalisé au pôle gériatrie en UCC. L'UCC est une unité cognitivo-comportementale qui accueille temporairement les personnes présentant des troubles comportement aigus, trop compliqués à gérer à domicile ou en EHPAD, hallucinations, déambulations nocturnes, tentatives de fugue, agressivité, peuvent être les symptômes de la maladie. Une fois ces troubles stabilisés, M. H intègre un EHPAD. Malheureusement, ces troubles refont surface et s'accentuent. L'hébergement dans ce type de structure n'est plus possible. Monsieur H est alors orienté vers l'unité d'hébergement renforcé, propose dans le cadre d'un accueil permanent une prise en charge adaptée aux malades Alzheimer et apparentés. Sécurisation des locaux, professionnels formés aux techniques de communication et de soins. La dégénérescence cognitive s'alourdit et de nouveaux troubles surviennent. Langage et communication difficiles, chute, troubles de la déglutition, problèmes respiratoires, jusqu'à l'alitement de M. H. L'équipe intervient désormais au chevet du malade et adapte son accompagnement renforcé pour le considérer, le soutenir, le soulager jusqu'à la fin de sa vie. Les soins de confort sont adaptés en modifiant l'organisation des soins. Ils sont réalisés plusieurs fois par jour, en fonction des besoins du malade et à la demande de la famille. Ces soins ont pour objectif d'apporter du bien-être à la personne et de prévenir l'inconfort de positions dites vicieuses. Les préventions d'escarres, on effleure la peau avec la paume de la main et de l'huile de soin de façon superficielle. Les soins de bouche, pour rafraîchir la bouche du malade, on applique des bâtonnets glycérinés, citronnés. On peut également une compresse d'eau de bicarbonate de sodium pour rafraîchir la laine. Les soins d'aide à l'hydratation, on propose une eau épaissie avec de la poudre pour éviter les fausses routes. L'alimentation plaisir, en fonction des envies de la personne, on lui donnera plus d'un type d'aliments et notamment du sucré. La supplémentation, en accord avec la diététicienne, on fournit des crèmes hyperprotéinées pour prévenir la dénutrition. La surveillance journalière de l'élimination fécale et urinaire des actions préventives peut être mise en place pour un bon fonctionnement du transit. Sachet du phalac, la poudre, suppositoire, microlax. L'observation des besoins de la personne permet d'apporter des gestes de confort adaptés à ses besoins physiologiques, psychologiques et physiques. Toute personne doit être considérée dans le respect et la dignité et dans l'assouvissement de ses besoins fondamentaux, douleur, alimentation, plaisir et hydratation adaptée. L'accompagnement du malade et de la famille. L'empathie et la douceur de l'équipe soignante instaurent un climat de confiance partagé avec le malade et sa famille. Les échanges sont réguliers avec les proches. Pour entrer en relation avec M. H, l'équipe décide de développer différentes formes de communication non verbale. Le sourire, le silence, le toucher, écoute, parole apaisante. En entrant dans sa chambre, les soignants assurent que M. H n'est pas en souffrance, morale et physique. Les soins d'hygiène sont effectués par des gestes doux non appuyés, à main nue, sauf pour la toilette intime, en prenant son temps et en expliquant les soins portés. C'est la technique du cali-soin. Par ces gestes, les soignants apaisent, détendent et relaxent le corps de M. H, tendu par la maladie. Le prendre soin, c'est toucher, se sentir touché au sens propre et au sens figuré, et vouloir être touchant. La toilette se termine par des gestes de massage, de bien-être et de confort. Massage de la main et du dos, par exemple, accompagné de musique classique. Suite à la dégradation de l'état de santé de M. H, l'équipe pluridisciplinaire de l'unité médecins soignants se concerte et décide avec l'accord de la famille, voire à sa demande, d'adapter les soins pour éviter l'acharnement thérapeutique. L'objectif est d'apaiser la souffrance et la douleur, de préserver la dignité de M. H et d'accompagner sa famille.
L'horaire des visites est aménagé pour faciliter la présence des proches. Nous encourageons la famille à participer au quotidien de son proche lors de la prise des repas, du coucher. Un lit d'accompagnement est proposé à l'épouse de M. H. L'équipe reçoit les confidences de la famille, reçoit leurs émotions et répond à leurs questionnements. Elle essaie de l'accompagner et de soulager le mieux possible et de favoriser sa participation si elle le souhaite. Le ressenti de l'équipe. L'équipe soignante rencontre des difficultés souvent d'ordre émotionnel. Par exemple, lorsque nous demandons à la famille de préparer les vêtements en vue d'un décès imminent, celle-ci n'est pas toujours prête à cette éventualité. Nous pouvons également être démunis face à l'angoisse des proches. Comment leur assurer que le malade ne sera vraiment pas seul au moment de son départ? Il arrive malheureusement que certaines personnes décèdent seules dans leur chambre, alors que nous sommes affairés aux tâches régulières, distribution des repas, toilettes, change animation, ou aux urgences, chute, malaise, agitation et agressivité des malades sont seuls à ce moment-là. La surveillance rapide n'est pas possible du fait de la sécurisation des portes de chambre afin d'éviter les intrusions des autres malades. L'équipe soignante peut également éprouver une certaine impuissance et une souffrance lorsque les traitements ne sont plus adaptés. Les problèmes respiratoires et de déglutition amènent l'arrêt de l'hydratation et de l'alimentation. Même si le médecin nous explique que la personne ne ressent plus la sensation de faim ni de soif, il nous est compliqué de l'accepter. Lors du décès de M. H., les deux soignantes, en lien régulier avec la famille, se sont portées volontaires pour assurer la toilette mortuaire et l'habillage. Habiller un corps sans vie est compliqué et l'affect peut prendre le dessus sur le professionnalisme. Si cela est trop éprouvant, l'équipe soignante passe le relais à d'autres collègues qui feront le nécessaire pour présenter la personne dignement à ses proches. L'équipe aménage la chambre pour que la famille puisse se recueillir. Le vide dans le service est ressenti par les résidents. La disparition d'une personne marque l'équipe, mais aussi les autres résidents de l'unité. On ressent un grand vide au sein de cette petite communauté qui peut ressentir plus d'angoisse. Nous échangeons entre collègues, nous rappelons des bons et des moins bons moments vécus avec la personne. Nous évacuons comme nous pouvons les émotions intenses ressenties. Par ailleurs, lors de la sortie du corps vers la chambre mortuaire, certains témoins de la scène sont perturbés. La famille, les professionnels réconfortent et soutiennent la famille en étant à l'écoute par leur attitude relationnelle et leur empathie. Les proches de M. H. sont soulagés qu'il soit parti dans le respect de sa dignité et apprécient l'investissement et le professionnalisme des soignants. Nous ne savons toujours pas trouver les mots pour atténuer leur peine, mais un silence partagé, une main sur l'épaule, soutiennent la famille en deuil. Chaque personne est différente et chaque accompagnement est réfléchi et décidé en équipe, en concertation avec la famille. Malgré le nombre de malades accompagnés, les soignants s'interrogent à chaque fois, car chaque personne a son histoire, ses besoins, ses envies, sa religion. Par ailleurs, les soignants peuvent être frustrés, parfois faute de temps nécessaire. Pour une prise en charge idéale, le ressenti de l'équipe serait plus de temps accordé aux patients et plus de moyens humains. Des gestes relaxants et apaisants à l'hôpital ne sont plus une utopie. C'est l'application d'une vraie politique centrée sur l'homme, quel que soit son handicap ou sa pathologie.
Ce sont vos mots, tout à fait. Alors on est touchés par ces témoignages.
Moi, je vous remercie. On est vraiment touchés par ces témoignages et surtout une grande qualité de prise en charge de ces personnes qui sont non seulement dépendantes, âgées dépendantes, mais qui sont aussi ont des troubles de comportement importants. En tout cas, quelle qualité de prise en charge. Je reste sans voix, je ne trouve pas les mots pour vous dire combien je suis touchée de votre présence auprès de ces personnes. Alors effectivement, vous avez bien dit que vous étiez frustrée parfois de ne pas vous prendre le temps de, que pour être encore plus à côté de lui et de l'apaiser. Hein, oui, c'est sûr. Oui. Alors, Madame Mijon, le refus de soins, vous en avez un petit peu, vous l'avez un petit peu évoqué, mais est-ce que vous pouvez rapporter, je vous redonne.
Je crois que c'est pour chaque soignant en gériatrie, hein, en EHPAD, à l'hôpital ou même au domicile, dans le service d'hospitalisation à domicile, on a beaucoup de patients qui refusent d'être soignés, hein, qui sont opposants. Alors, parce qu'ils ont des troubles du comportement et une maladie d'Alzheimer, mais aussi parfois parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils sont épuisés. Et ils refusent de prendre leur traitement, ils refusent de faire leur toilette, ils refusent de s'habiller. Et ça, c'est très compliqué pour un soignant parce qu'il y a une grosse culpabilité. On veut faire bien, donc on veut les prendre en charge et qu'ils soient dans un confort, dans un bien-être, et eux refusent. Et est-ce qu'on doit persister ou est-ce qu'on doit accepter cette décision-là? C'est un petit peu ça que j'ai voulu évoquer tout à l'heure. Puis je voulais juste rajouter, après les deux témoignages, les deux cas cliniques, que vraiment la prise en charge de fin de vie, vous l'aurez compris, hein, c'est vraiment un travail d'équipe. Hein, c'est toute une équipe qui réfléchit à ce qu'il faudrait faire pour bien faire, avec du directeur au cadre de santé, en passant par le médecin, et puis au plus près du soin, les infirmières et les aides-soignantes. Hein. Et c'est vraiment l'intimité des gens là, qui est en jeu. Hein. C'est très compliqué de se livrer à quelqu'un quand on est comme ça. Il faut vraiment avoir une confiance extrême dans le soignant qui nous prend en charge.
Ça se gagne, la confiance. Alors, on n'est pas sans doute dans le service aussi, hein, mais ça ne se décrète pas, la confiance. Donc, effectivement, on a tous à travailler, on n'est pas ailleurs, à gagner cette confiance auprès de la famille, à gagner la confiance auprès d'un résident, hein, qu'on accueille. Et puis qu'on accompagne sur des années la plupart du temps, même si ils rentrent de plus en plus altérés et âgés. Donc on les suit de moins en moins longtemps. Hein. La moyenne, c'est à peu près à peine 3 ans. Mais cette confiance, elle est utile, nécessaire et indispensable pour accompagner dans des bonnes conditions, évidemment, le résident qui s'éteint. Et la famille pour essayer de faire que ça sera jamais, on ne pourra jamais soulager entièrement la souffrance psychologique, le fait de perdre quelqu'un, forcément c'est insupportable. Mais en tous les cas, faire que tout ce qui peut parasiter un accompagnement soit pris en charge par une équipe pluridisciplinaire. Et Madame Mijon du Balai a raison quand elle dit que c'est l'affaire de tous. Quelle que soit la fonction, parce qu'on peut être derrière son ordinateur et finalement dans les couloirs et faire un petit signe, mettre une main sur l'épaule, comme le disait Marie-Natacha. Voilà, c'est l'affaire de tous. Et ce n'est pas simple, parce qu'il n'y a pas une situation identique. Il n'y a pas une famille qui attend la même chose. Et c'est ce qui fait qu'en même temps, le travail est extrêmement riche. Et que même si c'est difficile pour les uns et les autres, j'ai envie de vous dire que c'est du travail, mais on y met tout notre cœur.
Vous avez quand même une certaine pression des familles.
Clairement.
Oui, c'est ça.
Hein. Clairement.
Juste pour compléter, c'est vrai qu'on a souvent, on est confronté à ce qu'on appelle l'ambivalence de la famille. C'est-à-dire, on a un patient qui est en fin de vie, un résident en fin de vie. Et vous avez des proches qui sont très proches, des enfants souvent, des conjoints qui n'en peuvent plus, hein, pour qui la souffrance est importante et qui vont dire « on n'en peut plus, il faut accélérer les choses, il faut lui donner des médicaments pour qu'il parte plus vite ». Et puis le lendemain, ils vous disent « mais attendez, vous avez arrêté tous les traitements là, il va mourir, donc reprenez les traitements, on ne peut pas supporter que vous ne fassiez rien ». Et ça, c'est notre quotidien. Ça vous paraît peut-être surprenant, mais c'est notre quotidien. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir en équipe. C'est ce qu'on appelle toutes les procédures collégiales. On associe les proches, on associe la famille pour, quand on a décidé de faire un accompagnement de fin de vie, que ça soit clair, il faut que ce soit tracé, écrit au dossier, que tout le monde accompagne la personne de la même façon et qu'on essaye de ne pas bouger les choses telles qu'elles ont été établies. Pour des proches qui sont dans l'affect, dans l'émotion, c'est très compliqué. Puis Marie-Natacha vous l'a dit, hein, pour les soignants, quand on accompagne depuis longtemps, c'est compliqué aussi.
Oui, l'accompagnement est toujours suivi de réflexion. Finalement, la réflexion, elle ne nous quitte jamais. On se pose sans cesse des questions. Est-ce qu'il est plus opportun d'envisager cette façon-là, d'aborder les choses ou, enfin, je ne sais pas, Maud peut en parler, mais on est sans cesse en train de se réunir, de se poser tout un tas de questionnements sur la famille, sur comment prendre soin le mieux possible le résident quand il est incapable de nous transmettre la moindre chose en dehors. Ben, y a des choses perceptibles, hein, même sans le langage, parce que le visage parle de lui-même, ou les yeux, le plus souvent. Mais on est sans cesse en train de se poser des questions, d'envisager tout un tas d'alternatives, voire même de stratégies. Alors, ce n'est pas péjoratif, mais de se dire ben, qu'est-ce qui vaut mieux pour cette famille et qu'on n'aurait probablement pas fait pour une autre, parce qu'elle est très différente. Mais on n'est pas comme ailleurs, on se pose tout un tas de questions. Ce n'est pas parce qu'on s'adresse à une personne âgée que la fin de vie est plus facile, que les familles sont plus disposées à être prêtes. C'est pas toujours simple.
Moi je vous ai présenté un cas qui était difficile pour nous. Après, la majorité des fins de vie qu'on a se passe bien quand même dans notre EHPAD, parce que on anticipe beaucoup. En fait, les personnes sont âgées et donc elles n'arrivent pas en fin de vie du jour au lendemain, c'est petit à petit. Et souvent, on essaye d'anticiper tout ça, et avec la famille beaucoup. Donc, on convoque souvent la famille avant qu'on soit en soins palliatifs pour en parler, pour préparer, etc., pour que tout le monde soit d'accord et tout le monde comprenne pourquoi on fait les choses comme ça. C'est souvent compliqué, l'ambivalence des familles pour nous. Après, on essaye jusqu'au bout de laisser du temps aux familles et qu'elles soient en accord avec ce qu'on fait, parce qu'on trouve ça important. Parce que nous, c'est vrai que souvent, en EHPAD, les personnes mourantes, bien souvent, ne sont plus en capacité d'exprimer ce qu'elles souhaitent. Donc, on se base plus sur les personnes de confiance et donc les familles, pour savoir vers où on va. Voilà.
Oui, je dis que je veux remercier les soignants, médecins, infirmières, aides-soignantes qui sont 24 heures sur 24 auprès de ces personnes et leurs familles. Je crois qu'on doit s'inscrire en solidarité avec les soignants, les soutenir, parce que c'est un travail difficile qui appelle des réflexions éthiques, on l'a vu, hein, à tout moment, suivant les situations. Et effectivement, on est tous concernés, nous, bénévoles, bien sûr. Hein, y a beaucoup de bénévoles sont là ce soir et accompagnent des personnes âgées. Mais là, justement, on voit, même si on passe que quelques heures dans les unités, on voit combien les soignants sont attentifs et prévenants auprès des personnes âgées et leurs familles. Enfin, en tout cas, moi, je peux en témoigner. Hein, depuis 6 ans que j'accompagne au Myosotis, justement, où Madame Guiberteau nous a accueillis avec Michel. Et puis, effectivement, on se rend compte de cette disponibilité et surtout de l'attention particulière pour une personne, enfin, le petit foulard qui est mis, je suis touchée à chaque fois, et puis surtout de voir combien les soignants sont, sont vraiment prévenants et font un travail de qualité. Alors maintenant, c'est à vous de poser les questions.
Bonsoir à tous. Donc, je me présente Sylvie Cafardi, médecin gériatre à l'hôpital de Montmorillon. Je vous remercie et je vous salue et je vous remercie pour vos interventions. Et j'aimerais apporter quelques petites précisions parce qu'il y a des approximations qui peuvent porter à confusion. Au sujet de votre témoignage, Maude, à un moment, vous avez dit « Nous avons abordé la question des soins palliatifs, c'est-à-dire l'arrêt de tout traitement curatif. » Alors, j'ai été formée aux soins palliatifs en l'an 2000, ça fait 18 ans, et déjà, on me disait que cette vision binaire, traitement curatif tout seul d'un côté, puis on arrête brutalement et on passe au traitement palliatif tout seul de l'autre, était déjà obsolète, et que normalement, les soins palliatifs devraient commencer en même temps que les soins curatifs. Et les expériences, les pays où cela est pratiqué, en particulier il y a une étude qui a été faite, je crois que c'est en Californie, a montré que lorsqu'on commence les soins palliatifs dès l'annonce d'une maladie longue et invalidante, l'espérance de vie des gens a été prolongée de 3 mois en moyenne. Donc c'est ce qu'on essaie de faire autant que possible. Donc je le dis, les soins palliatifs ne signifient pas qu'on arrête les soins curatifs. Ça va très bien ensemble. Je vous le dis parce qu'on a eu une patiente qui appliquait à elle-même un acharnement thérapeutique, ce que moi je considérais comme tel. Elle tenait absolument, malgré son état, à venir 3 fois par semaine en dialyse, ce qui voulait dire 1 heure de route, ici à Poitiers. Et elle ne voulait surtout pas... Et quand je lui ai parlé de soins palliatifs, elle est devenue quasiment agressive parce qu'on lui avait dit que si on parlait de soins palliatifs, ça veut dire qu'on arrêtait les soins curatifs. Donc pour elle, ça signifiait la mort. Alors que c'était totalement faux. Je dirais même que c'est le médecin des soins palliatifs qui l'a accompagnée en dialyse, qui a appelé le chirurgien pour un problème qu'elle avait. C'est aussi le deuxième point de précision. Les traitements et la chirurgie ne sont pas tous interdits en soins palliatifs, c'est uniquement ceux dont le unique but vise à prolonger la vie. Je dirais le seul cas de ma carrière où j'ai pensé à l'euthanasie, ça a été un cas où le traitement de la douleur était chirurgical et où le chirurgien n'a pas voulu intervenir, c'était une prothèse de hanche infectée. Je peux vous dire que je harcelais le service, mes collègues de soins palliatifs tous les jours. La dame a fini avec une péridurale à demeure et ça ne suffisait toujours pas. Les douleurs de prothèse de hanche infectée, c'est atroce. On ne peut pas. Et là, le traitement était chirurgical. Et là, ça aurait été du soin palliatif d'opérer. Le troisième point de précision, c'est la sédation terminale, je crois. Il est précisé dans la loi que la sédation terminale vise, en cas de souffrance vécue ou probable du fait de l'arrêt des traitements, insupportable et réfractaire au traitement. C'est ce que précise la loi. En réalité, il est vrai que cette sédation terminale est donnée aux gens simplement parce qu'ils ont peur de se sentir mourir, même s'ils ne souffrent pas, même s'ils vont bien, parce qu'ils ont peur de voir la mort arriver. Or, je peux vous dire que, et on devra en parler plus souvent, le vécu subjectif de l'agonie, du moment de la mort, comme un professeur de psychologie américain appelait ce qu'on appelle couramment les expériences de mort imminente. Mais je vous cite une dame qui l'a vécu. Mourir, ça n'est pas si dramatique que ça. C'est sans douleur et sans angoisse. Mais il faut accepter, à un moment donné, de lâcher prise. Donc, au contraire, et en plus, il ne faut pas oublier que la sédation terminale coupe précocement la communication avec les proches, qui doivent accepter l'idée qu'ils sont déjà séparés de leurs proches alors qu'il est toujours là. Or, dans les derniers instants, c'est bien que des paroles libératrices et des pardons et des adieux peuvent dénouer les liens qui retiennent nos proches en cette vie et accélérer leur décès, mais sereinement, et aider aussi ceux qui restent à faire leur deuil plus facilement lorsqu'ils ont eu le temps de dire adieu. Donc je pense qu'il faut surtout favoriser cela. Ensuite, Maud, j'ai été admirative de votre prise... Marie-Natacha, pardon. de votre prise en charge. C'était ce qu'on essayait de faire nous aussi. Puis maintenant, avec la diminution drastique du personnel, l'accroissement des tâches administratives, en particulier un logiciel qui a augmenté le temps de travail de 1 à 2 heures par jour à tout le monde, tout en diminuant le personnel. Je me souviens d'un résident qui voyait l'aide-soignante qui devait tapoter sur son ordinateur entre 2 patients et qui lui a lancé « C'est-il pas bientôt fini ? Allez-vous vous occuper de moi ?» Mais non, l'ordinateur est le patient le plus exigeant. Il a monopolisé les mains et l'attention des soignants et les a retirés des patients. Et une de mes aides-soignantes m'a dit encore il y a une semaine « Si moi, quand je serai vieille, elles m'ont dit toutes que la situation s'est dégradée. Et l'une m'a dit, si moi, quand je serai vieille, on devait me traiter comme ça, c'est-à-dire comme on l'oblige, elle, à traiter les gens, je préfère prendre une pilule de non-retour. Alors, ce que vous faites, on le faisait, on sait ce qu'il faut le faire, mais on ne peut plus. Et la situation s'aggrave, puisque vu que la situation des aides-soignantes est dramatique, je connais une personne qui s'occupe de centres de formation pour adultes. Elle me dit, toutes les dames qui veulent se former à être aide-soignante, dès qu'elles font un premier stage à l'hôpital, elles ne veulent plus y retourner. Et cet été, on n'a pas trouvé de remplaçante aide-soignante à l'hôpital Montmorillon. Voilà, donc je vous laisse. J'ai longtemps parlé, je vous remercie. Excusez-moi.
Alors, je vais peut-être répondre un petit peu aux différentes... Il y a plusieurs choses, hein, beaucoup de choses. Si, elle s'est présentée. Oui. Alors, Sylvie, donc, une de mes collègues de Montmorillon, tu as parlé au départ d'arrêt des soins, arrêt des soins curatifs. Alors, j'imagine qu'à l'EHPAD de Mignalou, on fait des soins palliatifs et que les soins sont bien faits et qu'on n'arrête pas tous les soins. Il y a une confusion dans l'idée de limitation de soins, et ça c'est dans les lois, c'est dans la loi, c'est-à-dire que lorsqu'on dit on ne fait pas d'acharnement thérapeutique, on limite les soins, on parle donc de limitation de soins, c'est un terme vraiment impropre, inapproprié. Les soins, on les fait toujours, d'un bout à l'autre et jusqu'à la mort, hein, et on les voilà. Hein, et donc les soins, la prise en soins, elle est continue, et je pense que voilà, c'est dans chaque établissement fait de cette façon-là. Après, sur l'idée d'intervention palliative, bien sûr, il y a des interventions chirurgicales palliatives. Hein. Je n'ai pas parlé de ça. Hein. C'est des interventions qui ne serviraient à rien. Hein. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas, opérer d'une prothèse de hanche quelqu'un qui est en fin de vie d'un cancer polymétastasé. Voilà. Enfin, voilà, hein. Donc, on fait des interventions palliatives. Comme on donne des traitements antibiotiques parce que ça limite les souffrances, la fièvre, les pneumopathies. Enfin voilà, c'est les pneumopathies qui sont mal vécues. Enfin voilà, il y a des traitements qu'on peut utiliser au titre des soins palliatifs. Hein ? Moi, j'ai simplement évoqué un petit peu les contours de la nouvelle loi. Hein ? Après, sur la sédation profonde, c'est un grand sujet. Alors, c'est un très, très, très grand sujet qui est dans cette nouvelle loi très confus. Enfin, je ne sais pas si certains ont bien regardé, hein, mais on parle de sédation profonde et continue jusqu'au décès. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va utiliser des médicaments qui vont progressivement endormir les gens, qu'on va augmenter les doses progressivement jusqu'à ce qu'il y ait une irréversibilité des choses et qu'on aille jusqu'au décès. Ça peut se faire comme ça. Très souvent, on confond ça avec une anxiolyse, c'est-à-dire une sédation profonde qui permet d'être anxiolytique pour des gens qui auraient une souffrance psychologique importante. Et on a beaucoup de personnes âgées dans des états un peu végétatifs, j'aime pas du tout ce terme-là, mais quand ils sont grabataires, qu'il n'y a plus de communication, on a des gens comme ça dans nos unités de long séjour, où on est amené très souvent à faire de l'anxiolyse et à utiliser des médicaments qui pourraient, à un moment donné, provoquer le décès avec ce qu'on appelle le double effet, hein, c'est-à-dire qu'on utilise ces médicaments-là, la morphine ou l'hypnovel, pour ne pas les citer, qui peuvent abréger la vie. Mais il y a une différence entre cette sédation profonde et continue jusqu'au décès qui est possible dans la nouvelle loi, et la sédation profonde et continue, qui est une anxiolyse, hein, à visée anxiolytique. C'est assez compliqué. Je pense que la loi est floue, mais que c'est intentionnel, parce que chaque personne est différente. On doit raisonner au cas par cas. Et on peut c'est très compliqué de légiférer là-dessus. Alors, je ne sais pas, on peut en reparler, on peut repréciser les choses. Voilà. Je voulais intervenir.
Moi, je rebondis sur le fait que la souffrance, il n'y a pas que la souffrance physique, il y a aussi la souffrance psychologique. Certains sont prêts à assumer l'arrivée de la mort, d'autres ne le sont pas. Et les deux versions sont respectables. Que c'est aux soignants d'être adaptables, d'être au plus proche du résident et de sa famille, sans jugement, sans anticiper, enfin sans juger d'une version ou d'une autre, enfin je voilà d'être, mais je crois pas qu'il y ait de schéma idéal, de parcours idéal. La mort nous appartient, enfin est propre à chacun. Et aux soignants d'être un soignant de proximité, bienveillant, attentif. Et pour nous, c'est l'essentiel. Et finalement, ça s'appuie beaucoup sur le confort. Mais encore une fois, on ne nie pas l'existence de la souffrance psychologique. Voilà, c'est pour répondre à cette dame qui disait « je suis prête ». Tout le monde n'est pas prêt, je le disais dans mon allocution, on peut souhaiter la mort et la redouter quand elle approche. Et c'est réel, vraiment, parce que beaucoup des résidents qu'on accompagne, beaucoup nous disent être usés par la vie, vouloir mourir et ne plus rien chercher. Mais en même temps, ce n'est pas si simple, hein, c'est se séparer d'un entourage proches, des gens qu'on a aimés, et puis c'est pas simple. Donc j'ai envie de vous dire que c'est jamais radical, on peut pas être, y a pas de version idéale.
Et moi, je voudrais dire quelque chose aussi, quand vous dites comme ça que maintenant vous faites plus tout ce qu'il faut par rapport à l'accompagnement de fin de vie et tout. Je voudrais dire que notre équipe, on fait le maximum de ce qu'on fait, même s'il y a le manque d'effectifs, même s'il y a des locaux sécurisés, même s'il y a, voilà, il y a plein de choses. Ce que je veux dire, voilà, on essaie quand même de travailler en équipe et on essaye de faire le maximum de ce qu'on peut faire pour accompagner quelqu'un dans la dignité, le respect. Et ça, je voulais le dire, voilà, haut et fort. Voilà. Je suis très fière de ce que je suis aide-soignante et je suis très contente. Voilà.
Non, je crois quand même qu'il faut prendre en compte le malaise qui existe quand même dans les EHPAD ou même dans certains services où effectivement les personnes âgées... c'est vous qui évoquez le manque de personnes à l'école d'aide-soignante, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je crois qu'il faut valoriser et encourager les gens à faire ce métier, mais au-delà de ça, les conditions de travail et il faut que l'employeur accepte d'employer suffisamment de personnes pour faire... Donc, en fait, nous, la société, on est quelque part responsable parce que, effectivement, c'est à nous de demander à nos députés de se donner les moyens pour que se développe davantage de moyens dans les EHPAD ou dans les services de personnes âgées. Hein, parce que c'est vrai que là, on a la chance d'avoir eu des témoignages où les personnes sont prises en charge parce qu'effectivement, il y a un vrai travail d'équipe, vraiment on sent une solidarité dans l'équipe qui favorise les choses parce qu'effectivement, c'est très important. Mais quand il manque du personnel, eh bien, c'est à flux tendu et puis effectivement les tensions dans l'équipe arrivent et il n'y a pas de temps pour faire des pauses, il n'y a pas de temps pour réfléchir sur des sujets éthiques comme le fait Madame Guiberteau avec son équipe. Enfin, c'est autant de choses indispensables. Voilà.
Alors quand même, la plupart du temps, les équipes font ce que nous a dit Marie-Natacha. On prend le temps de faire bien les choses. On n'entend toujours que des témoignages négatifs dans les médias, avec des gens qui n'ont pas été à la hauteur. Mais combien sont à la hauteur ? La plupart du temps, les gens sont vraiment à la hauteur et font des choses incroyables et un accompagnement incroyable. C'est beaucoup d'émotions et les soignants, moi, c'est un investissement énorme. Ils donnent énormément d'eux-mêmes. C'est difficile de perdre une personne qu'on a accompagnée pendant plusieurs années. Je ne sais pas, il y avait une jeune femme qui avait une question tout à l'heure. Là.
Bonsoir. J'avais juste une petite question par rapport aux familles. Par rapport au cas de Madame Dumont, vous aviez dit qu'elle avait la possibilité de prendre des décisions par rapport à sa maman. Je voulais savoir jusqu'où ça pouvait s'étendre. Est-ce qu'elle prenait la décision parce qu'elle était dans un état gravataire, ou est-ce que dans toutes les situations possibles, les familles peuvent prendre des décisions
Alors, si la personne est capable de dire a une autonomie décisionnelle, donc ne présente pas de... n'est pas dans le coma, elle peut toujours dire ce qu'elle souhaite, même si elle présente une maladie démentielle. Elle garde une part d'autonomie décisionnelle. Donc il faut suivre ce que va nous dire la personne. Nous, on a accompagné il y a quelques années, j'avais présenté ce cas à un monsieur dément en fin de vie, qui avait fait des directives anticipées et qui bougeait chaque jour ses directives anticipées. C'était un peu compliqué, mais on a respecté au mieux ses souhaits. Alors, ça a mis l'équipe dans une grande difficulté, mais bon, on a essayé de faire au mieux. Après, pour une personne qui est dans le coma ou qui n'est plus capable de répondre, on va se tourner vers ses proches, et notamment d'abord la personne de confiance, qui n'est pas forcément un membre de la famille. Ça, c'est un peu compliqué. Mais bon, la plupart du temps, c'est un membre de la famille, conjoint ou enfant, et c'est eux qui vont dire, voilà, je souhaiterais ça et ça pour la fin de vie de ma mère, mon père, voilà.
La personne de confiance, elle est choisie par le patient lui-même.
Par le patient, oui. Mais c'est d'abord, le patient, après ça peut être inapproprié, comme je vous l'ai dit. Le patient, ensuite la personne de confiance, ensuite les proches.
D'accord.
Et puis l'équipe soignante, s'il n'y a vraiment personne.
Merci.
Et pour les personnes qui arrivent en EHPAD et qui sont déjà à un stade avancé, par exemple d'Alzheimer, comment on fait pour savoir exactement quels sont leurs désirs ?
Alors c'est compliqué, on s'appuie beaucoup sur l'entourage familial, mais d'où la difficulté parfois de se dire est-ce qu'il s'agit plus précisément des souhaits de l'entourage. J'ai envie de vous dire que les soignants se posent en permanence la question. Est-ce qu'il s'agit de la représentation des familles ou le souhait réel du résident qu'on n'a pas connu en dehors d'un contexte de troubles cognitifs et démentiels. Donc, c'est des questions qu'on se pose très, très, très souvent et qu'on pose aux familles aussi. Qu'on ose poser aux familles en disant de façon habile et respectueuse. Mais oui, ça peut être clairement problématique quand on a le sentiment que ce n'est pas en adéquation avec quelque chose de plus doux ou de plus respectueux de l'individu habituel. Voilà. Mais parfois, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi le fait que comme le disait Madame Mijon du Balai, il y a parfois beaucoup d'opposition. On a affaire à des personnes qui sont... qui ont des troubles du comportement, qui ne sont pas disponibles, forcément, et avec lesquelles l'approche du soignant est complexe. Vraiment complexe, mais même dans les actes les plus... ordinaire de la vie courante. Aborder le corps de quelqu'un qui ne veut pas être touché, alors qu'il est souillé, mais de sel, c'est compliqué. Mais Donc il y a tout un tas de choses qui se mettent en place. Je disais tout à l'heure de stratégie, ça peut paraître un vilain mot, mais on cherche, on est sans cesse en train de se poser des questions. Est-ce qu'il vaut mieux aborder l'individu de cette façon-là ou d'une autre ? Et puis on fait des tentatives, on n'est pas surhumain, on fait des tentatives, on essaye, on ne cesse jamais d'essayer. Et puis quelquefois, on a la chance de percevoir une ouverture, quelque chose qui se passe mieux, et on se dit, ben, dans ce cas, on communique, on se le transmet, on se dit que ça fonctionne mieux. Puis parfois, ça dure un temps, et ça cesse aussi. Et du coup, à nouveau, il faut se reposer des questions. Mais c'est pas toujours simple.
À la dernière réunion qu'on a fait avec Annie, tu parlais, Annie, des directives anticipées, puisque ça correspond un petit peu aux deux questions des demoiselles. Lorsque la personne n'a pas toute sa tête, on peut faire au jour d'aujourd'hui des directives anticipées, et ça peut être le cas pour ces personnes où elles peuvent avoir écrit ce qu'elle voulait ou est-ce qu'elle ne voulait pas aussi.
On n'en a pas d'ailleurs.
Parce que ça, c'est peu, je pense, parce que moi, je l'ai su grâce à Annie. Oui. Et c'est une chose que du coup, j'ai faite.
Oui.
Je suis pourtant pas vieille, mais du coup, je l'ai faite.
Oui, mais vous n'avez pas le même âge. On a affaire à une population très âgée, vraiment très âgée. La moyenne d'âge dans la résidence que je dirige, c'est 88 ans pour les femmes, 86 ans chez les hommes. C'est une génération qui n'a pas forcément songé à ce genre de problématiques. Et réellement, aujourd'hui, aucun d'entre eux ne rentre avec des directives anticipées.
Et leur en parler plus, peut-être ?
Alors, il faut dire que, bien sûr, ça serait tout à fait possible. Vous dire que, alors je témoigne de la vie quotidienne dans la résidence que je dirige, 80%, voire 90% des résidents qui vivent au Clos des Myosotis souffrent de démence. Donc le contexte est très particulier. La grande majorité n'ont pas désiré venir. C'est la vie qui les a conduits dans notre EHPAD, mais ce n'est pas un choix délibéré. Donc le contexte est très particulier.
Alors, juste pour compléter sur les directives anticipées, c'est effectivement très compliqué chez les gens très âgés, parce que moi j'avais dirigé une thèse pour un interne là-dessus. Hein, directives anticipées dans un service de gériatrie. On avait enquêté, on avait eu 30 personnes qui s'étaient prêtées au jeu, personne n'avait fait de directives anticipées, et la plupart du temps la réponse c'était « Docteur, je vous fais confiance ». Pour ma fin de vie, je vous fais confiance. C'est à vous que je dis, voilà, je veux que vous me preniez en charge. Donc, pas de directives anticipées, mais je vous fais confiance. Alors, c'est vrai que c'est générationnel. Hein. Je ne suis pas sûre que les jeunes, là, ils feraient la même chose. Hein. Voilà. Après, c'est quoi une directive anticipée ? Alors, c'est un débat un peu philosophique, mais c'est évident que si on met « je veux être pris en charge, ne pas souffrir physiquement, ne pas souffrir psychologiquement », ça, on le fait, c'est dans la loi Claes-Leonetti. Hein. Donc ça, c'est fait de toute façon systématique pour quelqu'un qui prend en charge en fin de vie une personne et qui connaît bien la loi et qui est habitué. Hein? Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme directives anticipées ? Eh bien, nous, nos personnes âgées, c'était des choses du genre « j'aimerais revoir mes enfants, j'aimerais revoir mon chien, j'aimerais manger un gâteau au chocolat ». Enfin, je dis des bêtises, hein, mais voilà. Vous voyez ? Et ça, c'est aussi des choses qu'on peut dire.
Bonsoir, je m'appelle Mallory, je suis apprenti animateur. J'aurais juste deux, trois petites questions à vous poser. Justement, vous parliez des familles. Il y a un manque, au final, d'accompagnement, peut-être. Et donc, est-ce que vous pensez, en fait, qu'il nécessiterait aujourd'hui une formation, au final, des familles à ces genres de soins ou des actions de prévention ou ne serait-ce qu'une journée, intégrer une équipe pour voir au final comment ça se passe, puisque je pense que la majorité des familles ne savent pas comment ça se passe dans une EHPAD.
Alors, je pense que c'est culturel aussi, hein, c'est sociétal, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a fait de la mort aujourd'hui dans notre société ? On l'a mis
Voilà, comment on se prépare. Alors, c'est très, très personnel, mais parce que moi, je pourrais vous dire ce que je pense, mais ce n'est pas ça qui va compter. C'est ce que la majorité pense. Et finalement, je pense que c'est qu'est-ce qu'on a voulu faire de la mort. Est-ce qu'aujourd'hui, elle a une place? Alors, nous, on s'emploie à lui laisser sa place et être des accompagnants attentifs. Alors, on discute, on informe, on explique beaucoup, beaucoup. Néanmoins, on peut pas tout garantir. On peut pas faire que le déni tombe au moment où on le voudrait. On peut pas faire que ce soit si simple. Il n'y a pas de réponse. On les accompagne. C'est au moins la seule garantie qu'on peut promettre. Mais faire que ce soit simple, c'est pas possible. Et préparer quelqu'un, je ne sais pas si on se prépare réellement. Je crois que c'est une réelle question. Est-ce qu'on se prépare vraiment à la mort de quelqu'un? On l'a subi, mais se préparer, je ne sais pas si ça a du sens.
Pardon. Voilà, c'est ça.
Mais les accompagner, c'est d'accepter.
Pas accompagner les familles, mais que les. Enfin, plutôt justement dans les familles qui sont dans le déni.
Ouais.
Comment dire, enfin, pas les forcer à avoir. Enfin, peut-être que ça se nécessiterait peut-être, mais je sais pas. Enfin, peut-être mettre en place justement. Enfin, oui, c'est compliqué. Ouais, c'est.
Mais oui, ça l'est. Parce que ils sont d'abord chacun ils ont leur chemin à parcourir et qui est très différent d'un individu à l'autre. On leur propose des accompagnements très variés. La psychologue est présente. Les soignants de proximité le sont énormément. J'ai envie de vous dire que vraiment tout le monde est concerné. Mais on ne peut pas tout anticiper, on est là, on accompagne, on est très attentif à ce qui se joue à certains moments, et on est très adaptable aussi. J'ai envie de croire qu'on fait progresser les choses dans leur tête et qu'on rend les choses plus faciles, mais je ne peux pas vous l'assurer non plus, ça serait présomptueux de ma part. Mmh.
J'aurais une dernière question, justement. Moi, en tant qu'animateur, on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, j'accompagne énormément, beaucoup. Enfin, justement, il y a peut-être ce problème-là que ces personnes plutôt grabataires, j'ai du mal à les accompagner avec ce problème, justement, de manque de mobilité et tout. Et justement, est-ce que vous avez des suggestions de comment accompagner ou comment animer ce genre de personnes-là, en fait ?
Comment j'ai du mal.
Ouais, dans le terme animation. Voilà, c'est ça. C'est dans mon but, quoi.
Alors nous, on travaille beaucoup sur le toucher. Les massages sont très, très importants. On travaille aussi sur les odeurs. On a des diffuseurs de parfums, sur la musique. La musique peut être très, très importante dans une fin de vie. Il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre à disposition, mais qu'on n'imposera pas. Et d'une Oui.
C'est-à-dire, on est avec une personne, par exemple, on marche, et puis tout d'un coup, elle se met à faire autre chose, à aller vers une autre personne, etc. C'est très. Il faut suivre la personne, c'est elle qui nous accompagne.
Le cas par cas, quoi.
C'est elle qui nous accompagne.
Bah ouais, mais je m'occupe de 90 personnes.
Il y a une grande souffrance quand on, enfin, ça a déjà été dit par Madame Guiberteau et Madame Mijon et les deux aides-soignantes, mais il faut laisser le temps au temps de se dire au revoir, et c'est pas évident quand on a vécu. Puis alors vous rendez compte, ces personnes, elles ont 90 ans, 95 ans, il y a toute une histoire, et c'est pas facile de quitter tous les gens qu'on a aimés et tout, et donc c'est dans les deux sens. Les familles sont. Je me souviens d'une fille avec sa mère. Sa mère était très fatiguée. Elle avait vraiment des problèmes cardiaques graves. elle était épuisée, elle voulait mourir, et elle me disait, puis elle le disait aux soignants, « Mais ma fille n'est pas prête. Ma fille n'est pas prête. » Et alors, bon, et puis, un jour, la fille a pris des vacances, est venue passer 8 jours auprès de... Alors, ça fait, c'est il y a quelques années, ça. 8 jours auprès de sa mère, elle l'a accompagnée, elle était prête, et elle est décédée dans la semaine. Donc, c'est de dire... Moi, cet exemple m'a beaucoup frappée, parce que c'était le témoignage de cette dame, on l'a accompagnée avec Michel, et c'est vrai qu'elle nous répétait souvent ça, qu'elle était épuisée, mais que... Elle attendait que sa fille soit prête. Donc, vous voyez, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais je crois que chaque cas, chaque situation est singulière, chaque personne est particulière. Et puis alors, dans le cas des troubles cognitifs, et notamment la maladie d'Alzheimer, c'est à improviser en permanence. Hein.
Quelques années, Maud n'était pas dans l'établissement. On a 2 unités sécurisées dans l'établissement de 16 places, donc au total 32. Et on a accompagné en fin de vie un monsieur avec de gros troubles cognitifs, mais qui conservait quand même une certaine mobilité. Et du coup, ça en devenait dangereux parce qu'il y avait une altération de l'état général majeur, mais cette volonté spontanée de se lever, et du coup, il se cognait beaucoup. Il tombait beaucoup. Et la question s'est posée de son environnement et de la sécurité de son environnement. Et avec, évidemment, le consentement de la famille, on a fini... Évidemment, il a fallu du temps pour accompagner la famille et réellement se positionner clairement en équipe pluridisciplinaire. On a fini par vider la chambre de ses meubles, dans sa totalité, et de tapisser le sol de matelas, en se disant ben, ça sera son cocon, son environnement propre. Alors évidemment, on sort totalement du schéma ordinaire. Ça peut paraître peu convenable pour certains. Et en même temps, tout à fait approprié pour ce monsieur, avec encore la possibilité pour ce monsieur de se mouvoir, sans se cogner, sans se faire mal, sans souffrance du coup. Alors en contrepartie, des difficultés pour les soignants. Parce que accompagner quelqu'un qui est au sol, et ce monsieur se recroquevillait dans les coins le plus souvent, eh bien ça voulait dire pour les soignants, prendre une bassine, être à 4 pattes pour accompagner ce monsieur au moment de la toilette. Alors évidemment, c'était complexe. Hein. Eh bien, on l'a réalisé, j'ai envie de vous dire, avec joie. Enfin, je veux dire, voilà, on se disait que c'était... Il n'y avait que ce monsieur qui comptait à ce moment-là. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de schéma idéal, je disais, je le répète. On peut réfléchir et inventer tout un tas de méthodes pourvu que ce qui nous mène, ce qui nous anime, c'est le confort et la bienveillance.
Et moi, je voulais dire, la semaine dernière, j'ai massé une dame en fin de vie et on avait l'impression, elle est mutique. On avait l'impression qu'elle ne se mobilisait pas et tout, qu'elle ressentait rien. Et à la fin du soin, à la fin du massage, elle a regardé ses mains, elle a fait que bouger ses mains. Et pour moi, j'ai trouvé ça magnifique. Voilà, c'était quelque chose. Je l'ai accompagnée comme j'ai pu et j'ai eu l'impression, ben, le peu de confort que je lui donnais lui a permis quand même de regarder un petit peu, de voir bouger son corps. Et ça, j'ai trouvé ça super. Voilà, je veux dire, voilà.
Témoignages, questions. Ah, j'arrivais.
Merci. Léa Yurik, je suis donc cadre de santé sur l'UCC et l'UHR depuis septembre au CHU de Poitiers. Je suis effectivement jeune diplômé cadre et donc je suis jeune arrivé dans cette unité. Moi, je suis surpris finalement de... Vous parliez beaucoup de consensus, de réunions d'équipe, etc. Et moi, ma question, c'est finalement, comment on fait pour accompagner les soignants lorsqu'on heurte leurs propres valeurs humaniste, notamment dans la décision d'arrêter les traitements. Lorsqu'on commence à dire on arrête l'alimentation, lorsqu'on arrête l'hydratation, on commence à avoir des réactions, on dit oui, mais ils vont mourir de faim, ils vont mourir de soif. Donc j'aurais aimé avoir des explications.
Alors, moi, mon expérience en gériatrie fait que souvent, ce sont les soignants qui demandent à ce qu'on arrête les soins, l'alimentation, l'hydratation, et que c'est plus le médecin qui a du mal à prendre la décision d'arrêt. Souvent, c'est ça. Parce que le soignant, enfin, comme on a dit, hein, les infirmières, enfin, vous donnerez votre avis, hein, les infirmières, les aides-soignantes, elles sont au plus près. Et à un moment donné, elles nous disent, ça n'a plus de sens, là, ce que vous faites, ça n'a plus de sens, il faut arrêter. Et le sens, on va le trouver ailleurs, hein, ça va être l'accompagnement palliatif. Après, il y a le problème de l'alimentation et de l'hydratation qui sont des problèmes un peu franco-français. Enfin, c'est un peu, voilà. C'est difficile pour nous, dans notre pays, de dire qu'on arrête de manger. L'alimentation, c'est quelque chose de très important parce que quand on mange, on est en bonne santé. En gros, c'est un peu ça. Et l'idée de mourir de faim, c'est inacceptable. Bon, bref. Alors, on ne meurt jamais de faim, en fait, hein, quand on arrête l'alimentation comme ça, parce qu'on a des réserves qui durent très, très longtemps. Hein. Si vous arrêtez de manger, vous avez 3-4 mois de réserve. Alors, effectivement, si on arrête l'hydratation, c'est autre chose. Et l'arrêt d'hydratation entraîne la fin de vie rapidement. Hein. Souvent, on dit on ne va pas arrêter l'hydratation parce que c'est inconfortable quand on est déshydraté. En fait, ce qui est très inconfortable, c'est de mal respirer et d'étouffer parce qu'on a cette hydratation qui fait un encombrement pulmonaire. Hein, donc on est plutôt plus confortable quand on n'est plus hydraté. Après, voilà, oui, il y a des valeurs qui restent. Alors, je ne sais pas, vous voulez donner votre avis sur...
Bah oui, moi, je rejoins le docteur Mijon du Ballet. C'est vrai que nous, c'est plus souvent les soignants qui sont en difficulté parce qu'on ne comprend plus pourquoi on fait ça et pourquoi on parlait d'acharnement thérapeutique, mais bien souvent, on a plus cette impression-là que dans l'autre sens. Hein. Ouais, voilà. Pourquoi presque on les force à manger à un moment donné ouais. Nous, c'est plus souvent le médecin, des fois, qui peut être... qui est moins en contact et qui se rend peut-être moins compte que nous...
C'est vrai que nous, dans l'équipe, quand on nous dit on arrête de lui donner à manger ou même de boire, c'est vrai qu'on se pose quand même la question parce qu'on pense à nous. Quoi. Je pense qu'on se met à la place du patient en se disant mais s'il ne mange plus, il ne boit plus, il va mourir. On sait qu'il va mourir. Mais quelque part, d'arrêter l'alimentation et l'hydratation, ça nous met quand même mal à l'aise. Et c'est vrai, c'est quelque chose qu'on a soulevé en équipe. Et chaque fois qu'on a quelqu'un qu'on doit accompagner, on se pose toujours cette question. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Voilà. C'est pour ça que parfois, avec le médecin, on n'est pas toujours d'accord. Voilà.
on essaye d'être d'accord hein, quand même la plupart du temps. Après, on peut aussi... Enfin, nous, on fait beaucoup de ce qu'on appelle l'alimentation plaisir. C'est-à-dire qu'on arrête l'alimentation, les repas complets, mais on va donner une petite crème, une compote, des choses qui font plaisir, qui évidemment ne sont largement insuffisantes pour couvrir les besoins nutritionnels au quotidien. Hein, donc on fait ça.
Les choses vont lentement. Hein. C'est jamais aussi radical. Quand on arrête perfusion sous-cutanée et alimentation, enfin de toute façon, c'est déjà qu'il n'y a plus d'alimentation. Hein. Par voie orale, il n'y en a plus par la bouche, mais parce que eux-mêmes se sont arrêtés, ils ont refusé, voilà, et ça se fait sur des jours et des jours, donc c'est jamais aussi radical, les choses se font lentement. Et concernant les soignants, je crois que c'est la charge aussi des cadres hein, d'accompagner les soignants, c'est important hein, de prendre soin d'eux aussi, hein. C'est l'affaire de tous. Donc, on ne se sent pas moins concerné, cadre ou dirigeant, face à ces situations, clairement. Et on est très attentif hein, à ce qui se dit, ce qui se joue dans les équipes, clairement. Hein. Prendre soin des moi, je dis souvent que prendre soin des équipes, c'est leur donner les moyens de déployer beaucoup d'énergie et, en faveur des résidents. Donc, c'est dans l'intérêt de tous. Voilà.
Est-ce que tout reste dans la relation, qu'on soit médecin, qu'on soit infirmière, qu'on soit, je veux dire, et tout reste donc voilà dans le dialogue. Je veux dire, on n'est pas, on a beau être agent de service, la personne qui va faire le ménage, et on a autant d'importance que tout le monde. Et je pense que c'est parler entre nous. Et voilà, la famille est là, on va discuter avec eux, on va trouver le meilleur moyen de s'occuper de leurs parents. Mais je veux dire que tout reste dans la relation et il ne faut pas hésiter à parler. Voilà. Ne pas rester dans son coin, mais parler tous ensemble.
Est inépuisable. En tout cas, moi, je vous remercie. Et puis, vraiment, bravo. Et moi, je pense en tant que bénévole, ça me donne d'autant plus envie de continuer à accompagner dans l'EHPAD et encourager d'autres bénévoles à accompagner dans les EHPAD parce que, effectivement, le bénévole, même si on vient que quelques heures, on est un tiers, on rencontre une famille, on rencontre une personne. Et en fait, c'est autre chose. Hein. On parle avec les soignants, bien sûr, mais je veux dire que les familles nous disent des choses qu'ils ne diront pas forcément aux soignants. Alors, ils nous racontent parfois qu'ils ne sont pas contents, ceci, cela, enfin bon. Mais il faut qu'ils le disent à quelqu'un. Mais bon, ça reste dans la confidentialité, évidemment. Ou encore, comme on le disait tout à l'heure, les accompagner quand ça ne va pas bien et que, ça fait partie. Je vous encourage, même si vous n'êtes pas bénévole, à aller voir vos voisins ou votre famille à l'hôpital ou à l'EHPAD. Hein. Et puis alors, souvent les jeunes, sont très appréciés parce que vous êtes jeunes, vous avez le sourire, vous avez toujours quelque chose à raconter. Et donc, votre présence est souvent, enfin moi je le remarque, hein, c'est vraiment extraordinaire, hein, les jeunes auprès des personnes âgées. Voilà, alors merci et je crois qu'on peut applaudir vraiment très fort cette équipe. Et leur souhaiter bon courage quand même parce que c'est vraiment la vie de travail continu. Merci encore. Qu'est-ce qui nous motive ? Eh bien, c'est pas pour aider, c'est pour être présent, être là pour écouter justement la souffrance, enfin ce qu'ils sont en train de, que la personne âgée est en train de vivre, et puis ce que les familles vivent, tout simplement. Hein, c'est ça, être bénévole, c'est être témoin de ce qui se vit simplement. Finalement, on donne une présence, notre disponibilité, avec simplicité. On ne fait rien d'autre.
C'est vrai que tout ça nous aide beaucoup dans les équipes. Donc, oui. Il y a des bénévoles qui sont là aussi. C'est une présence.
Et voilà, ça oui, tout à fait. Oui, puis il n'y a pas de hiérarchie dans les bénévoles. Je sais qu'il y a différentes associations de bénévoles qui viennent dans votre unité et je crois que c'est bien.
C'est
oui.
Vrai que pour des familles, ça peut être de l'aide et que justement, ils auront peut-être
oui.
Vous parler des fois à un
oui, oui. On est un tiers. Tout à fait. Oui. Oui. Parce qu'on n'est pas soignant, on n'est pas de la famille, donc il n'y a pas de relation affective. Donc du coup, c'est plus facile. C'est plus facile pour nous de rentrer en contact. Hein, voilà. Et puis, dans la confidentialité, bien sûr, de l'équipe soignante et de la famille et du malade. Voilà.